Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Pour cette semaine spéciale de France Culture consacrée à l'élection américaine, Les Pieds sur Terre accueille jusqu'à jeudi Looking for Kermit, un podcast d'Anne Lamotte. Anne Lamotte est journaliste à la rédaction de France Culture et elle s'est envolée pour le Texas à la recherche de Kermit Oliver, un monsieur un peu spécial, à la fois légendaire et obscur. Au début des années 70, il est le premier artiste noir à exposer ses tableaux dans une grande galerie à Houston. Rapidement, il devient célèbre pour ses peintures figuratives qui représentent souvent des animaux, des cochons, des coqs, des chevaux. Ses œuvres s'achètent aujourd'hui très cher dans les salles des ventes et la marque de luxe Hermès lui commande même des dessins pour décorer ses foulards. Mais Kermit Oliver est aussi un mystère. Il vit reclus dans une vieille maison à Waco, une petite ville au sud de Dallas où il ne reçoit quasiment personne. On ne sait pas grand-chose de lui, à part qu'il est descendant d'esclaves, fils de cow-boy, et qu'il a longtemps exercé le métier de postier. Alors Anne Lamotte est partie sur ses traces, essayer de comprendre qui est vraiment ce mystérieux personnage et ce que sa vie peu ordinaire raconte de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, Looking for Kermit, deuxième épisode, Black à part.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Houston, début des années 70. Un soir de vernissage dans la galerie de Ben Dubose, dans le quartier huppé de River Oaks. C'est Kermit Oliver qui expose. Comme d'habitude, ses peintures de scènes rurales attirent la foule, blanche, des beaux quartiers. On se bouscule. Quant à l'artiste que tout le monde réclame, il préfère rester dehors avec sa femme, Katie. Ces soirs-là, ils sont souvent les deux seuls noirs. C'est ce que je lis dans un article paru dans le magazine Texas Monthly en 2012. Un des rares articles sur Kermit Oliver. À ma connaissance, seule une vingtaine a été publiée depuis les années 60. Et c'est dans celui-ci que j'apprends qu'en 1970, Kermit est le premier artiste noir à exposer son travail dans une grande galerie réputée d'Houston. Le premier à franchir le mur qui sépare les artistes noirs des galeristes et des acheteurs blancs. Dès l'année précédente, en 69, alors qu'il est encore étudiant en art à la Texas Southern University, il travaille déjà avec Diane Rudy,
D-I-A-N-E-R-U-D-Y.
Galeriste blanche et débutante.
À cette époque-là, les artistes noirs et les artistes hispaniques n'étaient pas exposés nulle part. Et je sentais que de grandes choses se faisaient en art dans ces deux communautés-là. Je voulais les mettre en avant. Je me suis donc rendue à la Texas Southern en dernière année. Et j'ai découvert Kermit et un autre artiste. Je leur ai demandé s'ils voulaient exposer dans ma galerie. Et ils ont accepté, et ça a très bien marché.
La Texas Southern University, ou TSU, est fondée au départ pour la communauté afro-américaine à Houston. Kermit commence à y étudier en 1960 et il y trouve son mentor, John Biggers, célèbre artiste qui dirige le département d'art de la fac. Un mentor impressionné par la quantité et la qualité du travail de Kermit, mais pas ravi d'apprendre, d'après Diane, que l'étudiant expose chez elle.
Il était très fâché qu'une blanche puisse exposer le travail de ses étudiants, parce qu'il pensait que j'allais les exploiter. Et je comprends sa réaction. Vous savez, c'était tout à fait différent à l'époque. Je suppose qu'il ne faisait pas confiance aux Blancs, mais il s'est excusé. Un ou deux ans plus tard, je l'ai croisé. Il m'a dit qu'il était désolé. Et je ne l'oublierai jamais.
Pas confiance, John Biggers. Il n'est plus là pour nous répondre. Mais 10 ans plus tôt, en 1950, l'artiste n'avait pas pu se rendre à une cérémonie donnée en son honneur au Musée des Beaux-Arts de Houston. Elle n'avait pas eu lieu un jeudi, seul jour de la semaine où les Noirs étaient alors autorisés à mettre les pieds dans un musée. Mais revenons à son protégé, Kermit, l'affranchi. À TSU, qu'il fréquente une bonne dizaine d'années, en plein mouvement des droits civiques, c'est un étudiant à part. À défaut de le rencontrer, pour l'instant, allons faire un tour sur le campus, qui se trouve toujours dans le centre de Houston. Une ville dans la ville, où l'on compte encore 80% d'étudiants noirs. De longues avenues piétonnes, bordées de grands arbres. Un terrain de foot, entouré d'une cinquantaine de bâtiments, dont celui des sciences humaines, qui porte le nom de Martin Luther King. C'est marqué en grosses lettres à l'entrée.
Yes.
C'est là que je tombe sur une des figures de l'université. Serbino Sandifer Walker. Elle enseigne le journalisme. Dans son bureau, les photos d'une femme en particulier.
Michelle Obama.
Et dans ses paroles, la fierté pour cet établissement né dans les années 20 et qui fait partie de ce qu'on appelle aux États-Unis les universités historiquement noires.
Oh, we have evolved from so many
names. Oh, cette faculté a tellement changé de nom.
The Negro Junior College.
À l'origine, c'était le collège préuniversitaire pour les nègres.
Texas State University for Negroes.
Après, c'est devenu l'université d'État du Texas pour les nègres.
Texas Southern University.
Pour au final s'appeler la Texas Southern University.
Elle est baptisée ainsi en 1951. À l'époque, les panneaux blanc seulement et noir seulement s'affichent partout dans Houston, où la colère gronde.
The ironic thing about Houston is a lot of people think that there was nothing done.
Ce qui est ironique à propos de Houston, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il ne s'est rien passé ici, que tout se passait dans le sud profond, on va dire, comme en Alabama ou en Arkansas. Et ici, rien.
But that's not true.
Mais c'est faux.
La preuve, le 4 mars 1960, quelques mois seulement avant l'arrivée de Kermit, une douzaine d'étudiants prend son courage à deux mains.
On March 4th, 1960, what they did is they met at a flagpole.
Le 4 mars 1960, ils se sont donné rendez-vous sous un drapeau qui se trouvait pile au centre du campus. Ils se sont rangés deux par deux et ils ont défilé le long de Wheeler Street.
Wheeler Street.
Une rue très longue qui traverse le campus.
Singing those old, Negro spirituals,
en chantant de vieux Negro spirituals.
Things like, I ain't gonna let nobody turn me around.
Comme je ne laisserai jamais personne me décourager.
This is, I ain't gonna let nobody turn me around. And they march down, determined.
Et ils ont défilé plus déterminés que jamais.
More than ever to fight for justice.
Pour obtenir justice.
La destination des étudiants, le comptoir d'une cafétéria où seuls les blancs peuvent s'asseoir. Ce jour-là, John Bland s'y installe.
We overcame the fear because we said this has to be done.
On a réussi à surmonter notre peur parce qu'on s'est dit il faut le faire.
You have mixed reaction. You have,
les réactions étaient assez diverses.
Some white applauding you.
Certains blancs nous applaudissaient.
Why don't y'all go get a job?
D'autres nous disaient, mais foutez le camp, allez chercher du travail.
Well, you know, they used the famous word, you know, the nigger word.
Ils utilisaient le fameux mot nègre.
They spat on us.
Il y en a même qui nous crachaient dessus.
And of course they wouldn't serve us.
Évidemment, ils ne nous ont pas servi. Et la nuit suivante, ils ont pris,
you know, the round stoops.
Tu vois les tabourets ronds au comptoir. Eh bien, cette nuit-là,
so that night,
ils les ont enlevés.
They took the stoops. Off of the lunch counter.
Et Les manifestations durent des années à Houston, sous les yeux de Kermit Oliver. Il a 21 ans, en juillet 1964, quand le président Lyndon Johnson signe le Civil Rights Act, qui déclare la ségrégation illégale, notamment dans les lieux publics. Malgré cela, entre la police majoritairement blanche de Houston et les étudiants noirs de TSU, la tension monte. En 1967, l'année du diplôme de Kermit, le soir du 16 mai, sur le campus, où il n'habite pas, il loge juste à côté, c'est carrément l'émeute.
Quand je me suis rapproché du campus, il tirait à peu près comme ça.
Just like pow, pow, pow. After we've been up there, it was like Vietnam.
Une fois sur place, c'était le Vietnam.
Ce soir-là, les policiers tirent des milliers de balles sur l'un des dortoirs.
Ils tiraient exactement sur les fenêtres qui sont là. Les balles traversaient les couloirs, finissaient dans les murs. Les filles criaient « Laissez nos gars tranquilles, laissez nos gars tranquilles !»
Bilan, un policier tué, et près de 500 étudiants interpellés, dont Ray Carrington.
This is about 1, 2, or 3 o'clock in the morning now.
Il était quelque chose comme 1 ou 2 heures du matin.
They made us lay down in the grass with our heads down into the.
Ils nous ont fait nous allonger sur la pelouse, face contre terre.
We do on the grass with our heads, hands like this.
Avec les mains derrière la tête, comme ça.
Side by side.
Les uns à côté des autres.
All the way through.
Tous ensemble.
I mean, all of us.
And, tout le long du bâtiment.
And everything, and we just thought that that was going to be the end of it.
Et on s'est dit, c'est la fin.
I can remember a German Shepherd dog walking across my back, growling.
Je me souviens qu'un berger allemand est passé derrière moi en grognant.
That time in the morning, I was still in my underwear.
Et moi, à 7 heures de la nuit, j'étais en sous-vêtements.
We were all gathered up and caught into paddy wagons.
Et puis après, on nous a tous embarqués.
And taken to jail.
On nous a emmenés en prison.
We were fingerprinted.
On a pris nos empreintes.
Photographed.
On nous a photographiés.
The guy on the elevator was talking to another.
Dans l'ascenseur, il y a un gars qui a dit à un de ses collègues officiers.
They're going to charge all these niggas with first degree murder.
Ils vont poursuivre tous ces nègres pour assassinat.
And that was frightening, cause you know.
C'était effrayant.
That was frightening. All night I was afraid. I was afraid we were going to die, or I was going to get sent to jail for something that I didn't do.
Toute la nuit, j'ai eu peur de mourir ou d'être jeté en prison pour quelque chose que je n'avais pas fait.
It was crazy.
C'était dingue.
It was crazy. It was crazy.
Au final, 5 étudiants sont poursuivis et finalement mis hors de cause quand l'enquête conclut que la balle qui a tué le policier a été tirée par la police. 3 ans plus tard, à 2 kilomètres de là, c'est encore une balle de policier qui tue le leader noir, Carl Hampton. Entre-temps, Martin Luther King est assassiné dans le Tennessee, autre état du sud des États-Unis. Les balles d'un pistolet peuvent arrêter une vie, elles n'arrêteront pas la lutte, hurle alors le chanteur Thomas Melancon, passé lui aussi par TSU. Une lutte à laquelle Kermit Oliver n'a pas directement participé. Mais je sais qu'il laisse sa trace, quelque part, sur le campus.
It's a local, Do you have a local number where I can reach you?
C'est Alvia Wardlow qui me guide. Elle est professeure d'histoire de l'art à TSU et l'une des plus fines connaisseuses de l'œuvre de Kermit. Quand en 2005, le Musée des Beaux-Arts de Houston organise une rétrospective du travail de l'artiste, c'est elle qui est aux commandes. Une impressionnante petite dame que je suis dans les couloirs sans fin de la fac, qu'elle connaît comme sa poche. Et où, derrière une énième porte,
it's Kermit.
L'héritage de Kermit.
So, as I was saying, I mean, you know, this.
Voilà.
Okay, and this was done in the late 60s.
Et mon Dieu, cela a été fait à la fin des années 60.
And it's obviously about struggle and.
Ça parle évidemment de lutte.
Determination.
De détermination.
And
people helping one another,
de solidarité,
while there's so much.
Et en même temps, il y a un tel sentiment de perte.
Loss.
Devant nous, une grande fresque. Sur 10 mètres, l'étudiant a peint des noirs, quasiment nus, décharnés. Il se cache le visage, tombe, implore, souffre, résiste aussi. Le tout dans les gris et verts glauques. Preuve que dans son esprit à l'époque, ça bouillonne. Sa réponse, comme vous dites, je pense qu'elle se passe dans sa tête. Comme s'il laissait parler son art pour lui.
Art speak for him.
Cette fresque, c'est sa banderole à lui. Mais Kermit ne s'engage pas plus dans le combat pour les droits civiques. Vous comprendrez plus tard pourquoi.
Thank you, Alvia.
Il laisse pourtant un souvenir impérissable chez certains de ses camarades.
Et hop. We didn't go to Galveston.
No, we're gonna go to Boston. I got to work.
Okay.
So I get permission to go to Galveston, come back, and I'm told to come back. Boma's here.
C'est les plus belles bottes de cow-boy que j'ai vues à Houston. Celles de Robert Jones. Il les collectionne. Mais il n'est pas cow-boy. Il est avocat. Lui aussi était étudiant à la Texas Southern University dans les années 60, en même temps que Kermit Oliver.
Can I get you anything? Water, a glass of wine, cheese and crackers.
Avec sa femme, Velma, décoratrice d'intérieur, ils ont très bien connu l'artiste. Si tant est, encore une fois, qu'on puisse bien le connaître. En tout cas, il confirme. Kermit n'est pas, comme Robert, descendu dans la rue pour crier contre les injustices dont les Noirs étaient victimes, mais il a participé, notamment avec sa fresque à l'université, à sa façon.
Oh, yes, he did. He did. Kermit was.
Bien sûr, il a participé.
He was not passive. He was creative.
Kermit n'était pas passif. Il était créatif.
What I did. Nobody remembers.
Ce que j'ai fait moi. Personne ne s'en souvient, sauf moi.
What he's done.
Ce qu'il a fait lui.
It will be remembered forever.
Why? Do you see?
Les gens s'en souviendront pour toujours.
Tout de suite, je me rends compte que Robert et Velma Jones, qui n'ont pas de nouvelles de Kermit Oliver depuis des années, sont restés fascinés par le personnage. Sur un des murs de leur salon, on ne peut pas le rater, il saute aux yeux, un très grand portrait. Celui d'une femme, aux cheveux longs, assise confortablement dans un fauteuil, habillée tout en blanc, dans un jardin tout en vert, vif. Je reconnais Velma, plus jeune, la même décontraction, le même sourire. C'était il y a 40 ans et c'est signé Kermit Oliver. Elle s'en souvient comme si c'était hier.
Il m'a dit, il faut que je te prenne en photo parce que Robert veut un portrait de toi. Je lui ai répondu, oh, mais pas aujourd'hui.
Robert
déteste le t-shirt que je porte. Kermit, s'il te plaît, ne prends pas cette photo.
He said, don't worry about it.
Mais il m'a dit, ne t'en fais pas pour ça.
And so he took that chair,
et alors il a pris cette chaise
right
et il a été la placer juste là-bas, sur le perron.
I said, Kermit, I want a beautiful picture.
Alors moi j'ai dit, Kermit, je veux une belle photo.
Hein.
Je veux de la couleur, j'adore le rose. Tiens, voilà, ça c'est ma couleur. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a vu l'azalée en fleurs et qu'il a installé la chaise. Il a dit, c'est cette lumière-là que je veux. Puis il a pris le cliché.
Quand vous l'avez vu, vous en avez pensé quoi?
J'en ai eu le souffle coupé.
Took my breath away.
Le souffle coupé.
En effet, cette femme tranquille, sur fond d'azalées roses, est magnifique. Et toutes ces choses que le peintre a ajoutées autour d'elle, comme dans chacun de ses tableaux d'ailleurs, tous ces symboles à décrypter, comme cette pomme rouge entamée, ce canari échappé de sa cage, ou son nom, Oliver, écrit discrètement sur la tranche d'un livre.
Kermit is brilliant.
Kermit est génial, me répète, intarissable, Velma et Robert. Il faut dire qu'à l'université, la maturité et la curiosité de l'étudiant sortent du lot. Kermit, notamment, dévore les livres, et pas les plus faciles. Sur sa table de chevet, de la technique pointue, avec la géométrie secrète des peintres du français et théoricien de la composition Charles Boulleaud. De la psychologie analytique, avec symbole de transformation de Carl Jung. Il choisit Faust de Goethe pour son projet de fin d'études. L'Ancien, le Nouveau Testament, la mythologie grecque et romaine n'ont pas de secret pour lui, sans oublier la République de Platon, Ulysse de Joyce, et puis Proust, Dante ou Shakespeare, qu'il cite facilement dans la conversation.
I was just blown away by his intellect.
J'étais stupéfait par son intellect. J'étais fasciné par la profondeur de son intellect et par le calme, la paix qu'il dégageait. Kermit avait une telle aura. Il est là, il ne dit rien et on ne voit que lui. Il ne voulait pas attirer l'attention sur lui.
Yeah, he didn't.
Il ne voulait pas.
But he'd walk into a room and there goes air. Kermit's here.
Mais bon, il entrait dans une pièce et hey, regardez, Kermit est là.
The moments you spend with Kermit,
les moments que vous passez avec Kermit sont des moments dont vous vous souvenez toute votre vie.
He is what.
Il est le genre d'homme auquel les hommes veulent ressembler.
Inspire to be.
Quant au couple que Kermit forme alors avec sa femme Katie, rencontrée sur le campus, pour Velma, fan ultime, c'est un duo de stars.
We were just in awe.
On en était bouche bée.
Such a beautiful couple.
Parce qu'ils étaient tellement beaux.
Kermit had big.
Les cheveux de Kermit étaient longs et bouclés. Il était incroyablement séduisant.
And she was just as pretty as she could be.
Et elle, on ne pouvait pas faire plus belle.
Katie was like a peach.
Katie était absolument ravissante, fraîche comme une pêche, tellement jolie. Tous les jours, on les guettait et on se disait, les voilà.
L'artiste, objet d'une telle passion, voire d'un tel culte, il était certainement loin de s'en douter et loin de le souhaiter. Car son but à lui, c'est de passer inaperçu. Sauf que son talent, son intellect et son charisme attirent toute la lumière sur lui. Ses décisions aussi. Comme celle, imprévisible, qu'il prend en 1978. En 78, Kermit a 35 ans et quasiment 10 ans de succès derrière lui. Son travail est adoré. Par les néophytes, par les collectionneurs, par les critiques qui comptent, on s'arrache ses toiles, dont les prix s'envolent à des dizaines de milliers de dollars. C'est alors que le père de famille choisit un métier. Il veut continuer la peinture, mais il veut travailler. Professeur d'art, peut-être ? Après son diplôme universitaire, il a testé, notamment 3 semestres dans son ancienne fac. Mais son ambition est de peindre, pas d'apprendre aux autres à le faire. Donc non, ce ne sera pas prof. Et il trouve. Il est résolu. Ce sera postier. Pourquoi ? Pourquoi pas, me direz-vous ? Mais je veux comprendre, car cet homme ne laisse rien au hasard. Tout a une explication, dans son œuvre comme dans sa vie. C'est Alvia Wardlow, la petite dame professeure d'histoire de l'art à TSU, qui connaît tant de choses sur le peintre, qui m'éclaire. Un jour qu'on le questionne, pourquoi êtes-vous devenu fonctionnaire à l'USPS, le United States Postal Service, de nuit, de surcroît ? Kermit, elle se souvient, finit par répondre.
He said benefits.
Les avantages.
Why did you work at the post office and said benefits?
Les avantages.
And children.
J'ai des enfants.
Insurance. Health insurance.
Ça me donne une assurance maladie.
You know.
Et un salaire régulier. La garantie d'une retraite aussi.
Just a steady bread and butter thing.
Avoir un gagne-pain stable, en fait.
Practical.
Il a un côté très pratique.
You know. And I think it was. I mean, I've always said.
Et par ailleurs, j'ai toujours pensé que ce
job.
Travail si machinal,
so rote. that his mind could be somewhere else.
Permettait à son esprit d'être ailleurs.
And immediately those
et il rentrait immédiatement pour se concentrer sur toutes les idées qui avaient filtré dans son esprit à la poste.
I mean, he might have seen a stamp or
je ne sais pas, peut-être qu'un timbre ou autre chose l'avait inspiré. Il ne se reposait pas. Ça aussi, hein, ça m'a marqué. C'est quoi votre routine quand vous rentrez de la poste? Vous allez dormir? Non. Je rentre chez moi. Je vais dans mon atelier. Et je peins. Pendant 6-7 heures. Ensuite, je vais me coucher. Cette rigueur. Ça demande tellement de discipline.
Il ne dormait que 2 heures.
Oui, à peu près, peut-être 4.
If you got that much talent,
mais quand on a autant de talent,
you don't want to waste it.
On n'a pas envie de le gâcher en dormant.
Sleeping, and then I'm sure, I mean, all dreams and all of that.
Je suis sûre qu'il tenait aussi à peindre ses rêves
before they were gone.
Avant de les oublier.
Ainsi, pendant 35 ans, de 1978 à 2013, d'environ minuit à 8h30 du matin, 5 jours par semaine, Kermit Oliver trie des lettres. Nom, adresse, code postal, dans le clic-clic des machines qui l'entourent. À Houston, puis à Waco, où il déménage en 1984 et où il habite toujours. Une contrainte? Une soumission? Au contraire, c'est la liberté. Celle de pouvoir réfléchir à son œuvre la nuit et de peindre le jour. Celle surtout de ne jamais dépendre des tendances de l'art. Kermit Oliver peint ce qu'il veut quand il veut et non pas ce qu'il faut quand il faut. Il choisit sa vie, son chemin, sa méthode.
Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, à l'occasion de la semaine spéciale élection américaine, c'était le deuxième épisode de Looking for Kermit, un podcast d'Anne Lamotte, journaliste à la rédaction de France Culture, avec une musique originale de Léo Poumet. Vous pouvez retrouver et podcaster cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.